Vox Populi.
Rares sont encore à la surface du globe les lieux inexplorés par l'homme. Il y en avait un à l'extrême sud-ouest du continent américain, là où s'étend la Terre de Feu, au-delà de la Patagonie. Son nom, la cordillère de Darwin, une bande de terre chilienne de 60 km de large et de quelques 150 km de long, presque entièrement entourée d'océans. Mais aujourd'hui, cette cordillère de Darwin n'est plus vierge, car un explorateur franco-suisse de 34 ans, Christian Clos, en a traversé la partie centrale. Une aventure en solitaire. Christian Clos avait certes déjà mené deux expéditions dans la cordillère de Darwin en 2004, puis au printemps 2006, sauf qu'il était accompagné et surtout n'était pas parvenu à parcourir la partie centrale. Alors, Christian Clos s'est rendu une nouvelle fois sur place. Nous sommes fin 2006. Un bateau, unique moyen d'accès possible, le dépose au pied de la cordillère, seul, face à la nature. Récit.
Le moment où je me suis retrouvé tout seul, ça a quand même été un instant d'une émotion très particulière, puisque on ne voit pas son bateau, son unique lien avec le monde repartir sans se poser quelques questions, puisqu'on sait que c'est son seul moyen de rentrer. C'est vrai que cet instant-là est un instant très profond dans le sentiment qu'il apporte. Et puis ensuite, ça disparaît très vite, parce qu'on a devant soi une terre gigantesque, inconnue, à explorer, à aller rencontrer. Et donc tout de suite, le travail se met en place, la progression, pour pouvoir aller là où le rêve nous a conduit.
Cette terre mélange d'eau, de glace, de montagne,
de forêt, tout qui s'entrecroise. Et c'est ça qui donne un sentiment assez particulier à ces lieux, c'est qu'on a l'impression que tous les éléments du monde se sont réunis au même endroit pour vivre ensemble. C'est quand même assez rare de voir une forêt qui jouxte le glacier, mais de manière complètement en adéquation. C'est-à-dire que les racines des arbres vont prendre naissance sur le glacier. Ces glaciers qui prennent eux-mêmes naissance de la mer ou des montagnes. Donc tout ça, lorsqu'on progresse dans ce milieu-là, on a l'impression d'être sans cesse, parfois dans la jungle amazonienne, parfois sur un glacier, parfois en montagne, une fois en mer. Et on perd totalement la notion du milieu particulier dans lequel on se trouve.
Beaucoup de risques, évidemment, hein, lorsqu'on se retrouve dans un milieu que l'on peut peut-être appeler hostile.
Malheureusement, oui. Objectivement, il y a un certain nombre de risques. Quand on part seul comme ça, on essaye de préparer au mieux pour que les risques soient le plus maîtrisés possible. On ne peut pas tous les éliminer. Il y a des dangers objectifs. Notamment, je progressais sur un milieu très, très crevassé, avec pas assez de neige, donc beaucoup de ponts de neige fragiles, le risque de tomber dans des crevasses. Je suis tombé 3-4 fois dans des crevasses avec la chance qu'elles n'étaient jamais trop profondes ou trop larges pour ne pas pouvoir en sortir facilement. C'est par contre dans une avalanche que les choses ont été un peu plus compliquées. Je me suis fait prendre dans une avalanche. Oui, là, effectivement, il y a quelques instants, on se dit c'est fini. Par bonheur, ça n'a pas été le cas.
Cette avalanche, vous n'avez rien pu faire pour l'éviter. Elle vous a enseveli et vous avez creusé toutes vos forces pour essayer d'en sortir.
Quand on est pris dans une avalanche comme ça, on se met à nager, presque comme dans l'eau, pour essayer de se maintenir un peu à la surface de l'avalanche qui tombe. Et j'ai pu ainsi me maintenir suffisamment à la surface pour qu'ensuite je puisse creuser pendant passablement de temps, mais pour rejoindre la surface.
À vous écouter, quand même, on a l'impression que c'est complètement, complètement fou comme aventure.
Il y a un côté fou. Je crois qu'il ne faut pas s'en cacher. Il y a un côté fou. Quand on décide de partir seul là-bas, c'est forcément, on sait que le danger objectif est grand, qu'on va subir des conditions climatiques terrifiantes. Enfin, c'est vrai que quand on a 240 km/h de vent, on ne peut plus rien faire. On est engoncé dans la tente qui bouge de tous les sens. Dès qu'on sort, l'humidité nous rattrape. Enfin, c'est pas forcément agréable en soi. Mais je crois que c'est nécessaire. Enfin, aucune exploration, aucune progression sur notre monde et maintenant dans l'espace ou dans le monde sous-marin ne se fait sans ce minimum de risques. Et c'est parce que je pense on est d'accord de prendre certains risques, maîtrisés néanmoins, réfléchis, qu'on peut continuer d'avancer. Et cette avancée-là, pour moi, elle est vraiment importante.
Mais qu'est-ce qui vous pousse à aller comme ça au-devant du danger ?
Parce que je n'ai pas l'impression d'aller au-devant du danger, justement. C'est-à-dire, je sais que le danger existe, c'est un facteur de la chose. Mais pour moi, le danger, comme les techniques de montagne, comme la charge que je dois porter, tout ça, ce ne sont que des véhicules qui me permettent d'aller justement dans des endroits où je vais pouvoir vivre quelque chose d'unique, de rare, qui va me faire d'abord progresser personnellement à mon niveau propre, puis ensuite, à une échelle certes réduite, mais néanmoins existante, qui va faire progresser notre connaissance du monde, notre connaissance de l'humanité. Et c'est parce que plusieurs personnes, des dizaines, des centaines de personnes font cette même chose, que petit à petit on apprend, on connaît mieux, on améliore la connaissance de l'humain, de notre monde. Et c'est parce qu'il y a toujours eu des hommes comme ça, je crois, et sans, moi je le dis sans aucune prétention, parce que je sais que c'est tout petit, mais parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont eu cette envie qu'on a continué à progresser, à améliorer notre condition de vie, et surtout cette idée-là, mais qui est sous-tendue toujours, ce qu'on cherche finalement, c'est la vie, c'est à comprendre notre sens, le sens de notre vie sur cette terre. Donc c'est vrai que toutes ces expériences-là me permettent d'aller plus loin dans cette réflexion.
Et des lieux inexplorés comme celui-ci, est-ce qu'il en existe encore beaucoup dans le monde? A priori, vous avez exploré l'un des derniers lieux qui était quasiment inconnu pour l'homme.
Oui, avec cette nuance importante quand même. On va dire le dernier lieu à ciel ouvert. Parce qu'il est bien évident que les fonds marins, les corps terrestres, avec la spéléologie notamment, recèlent encore de nombreux trésors totalement inexplorés, mais qui vont demander énormément de temps. Donc à ciel ouvert, je pense que c'est l'un des derniers milieux. La Cordillère Darwin, cette particularité qu'elle a eue, qu'elle avait, et qu'elle a encore pour certaines petites zones où j'ai pas pu aller, c'est qu'a priori, jamais un humain, même pas les Indiens qui habitaient là-bas, voilà quelques centaines d'années, n'ont pénétré dans ces montagnes. C'était vraiment encore un des milieux où jamais un humain n'a pénétré. Toute la Cordillère est sillonnée par des fjords, des canaux, des méandres absolument fabuleux à l'œil et d'ailleurs à tout point de vue. Dans ces canaux-là vivaient des Indiens qu'on appelait les Yamana, il y avait la peuplade Yamana, la peuplade des Alakalouf, qui vivaient dans leurs canaux. C'est des gens qui avaient une sensibilité énorme par rapport à leur milieu et qui avaient énormément de croyances par rapport aux montagnes, et notamment l'idée que dans les montagnes vivaient les dieux, notamment Moineau, le dieu des montagnes et des tempêtes, et donc ils n'allaient pas aller se confronter, ils n'allaient pas aller lutter contre leurs propres dieux. Tout porte à penser qu'ils n'ont jamais été dans les montagnes. Par contre, moi j'ai été un peu à la poursuite dans ces montagnes d'une idée qui était la cité perdue, la cité interdite. C'est une croyance qu'ont les marins aujourd'hui, les marins patagons qui pêchent dans ces fjords aujourd'hui, ont cette idée que dans ces montagnes existe une cité perdue. Et plusieurs nous ont dit « Ah, quand tu iras dans les montagnes, va, peut-être que tu vas trouver pour nous la cité perdue, tu nous raconteras. »
Maintenant, vous êtes revenu sur le vieux continent européen, l'aventure est derrière. Comment arrive-t-on à se réinsérer, j'utilise exprès ce terme, à se réinsérer dans la vie, entre guillemets, normale, urbaine?
Avec la certitude qu'on a terminé ce qu'on avait à faire sur place. Et aujourd'hui, je peux le faire, justement. C'est venu comme une évidence. J'étais en train de redescendre, j'étais pratiquement au niveau de la mer. J'étais encore en train de me poser la question de savoir, il reste une petite zone de ces montagnes où je n'ai pas encore été, comment je vais y aller, quel bateau je vais pouvoir prendre. Et puis, en un instant, c'est venu. J'avais fini. J'avais plus besoin. J'étais arrivé au bout de l'aventure que j'ai commencée. Et ça a été quelque chose que je n'avais pas réfléchi. C'est venu vraiment, ça m'a envahi. Et presque, et ça je sais que c'est mon imaginaire, mais pour dire quelle est la force de justement tous ces sentiments qu'on entretient quand on est là-bas, à ce moment-là, en un instant, j'ai vu une cité qui se dessinait dans les montagnes et qui a disparu aussi, instantanément également, mais tout d'un coup, elle était là. Ce que j'avais été chercher était là, et donc j'avais plus à y retourner.
Et si vous souhaitez en savoir plus sur Christian Clos, son site internet www.ultimatera.com.